Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Cette libre antenne du dimanche soir. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 1h du matin pour cette émission consacrée à nos animaux, tous ceux qui nous accompagnent à plein temps ou ceux qui, quelquefois, ont juste été là le temps d'une rencontre mais que nous n'oublierons jamais. J'attends ce soir surtout des témoignages exceptionnels si un animal vous a sauvé la vie. Si vous avez vécu une situation hors du commun, une rencontre avec un animal qui vous a marqué, appelez-nous au 3921 et venez nous en parler. Vous pouvez aussi témoigner ou réagir par SMS en tapant le 73921 et en commençant par le mot nuit. J'aimerais aussi que par SMS, vous m'envoyez le nom que vous donnez à votre animal. Je donnerai les plus originaux ou les plus drôles à l'antenne. Amandine et Hassan attendent vos appels au 3921. Fabrice Foujours est à la réalisation. La libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et la première personne que je vais faire intervenir ce soir sur l'antenne, c'est Yves Layani. Yves était un petit garçon hypersensible, complètement tourné vers son monde intérieur, au point qu'il ne parlait quasiment pas. Communiquer avec les autres était très difficile, voire impossible. Et ce sont les animaux qui l'ont sauvé. Aujourd'hui, il est vétérinaire et de son histoire, il a fait un très beau livre qui s'appelle « Le dompteur de mots », M-A-U-X. « Comment le silence des bêtes a libéré ma parole » aux éditions Michel Lafon. Bonsoir Yves.
Bonsoir Sabine.
Merci beaucoup d'ouvrir cette émission avec nous ce soir.
Ben, c'est un plaisir pour moi.
Et j'aimerais savoir comment pour vous s'est fait donc cette rencontre extraordinaire avec le monde animal.
En fait, j'ai grandi essentiellement à la campagne en Eure-et-Loire dans un petit village qui s'appelait Saint-Lucien. Mm-hmm. Et à Saint-Lucien, bien, j'ai côtoyé des animaux de ferme, j'ai côtoyé différents types d'animaux, mais le véritable animal qui m'a fait avoir un lien particulier, c'est un petit poussin. Un petit poussin qui a eu le malheur de tomber des mains de ma sœur, de se casser une patte. Et mon père, qui était médecin, associé à moi, eh bien, nous avons rétabli ce petit poussin. Voilà ma première aventure, je dirais, qui a ensuite débouché sur tout mon parcours jusqu'à ce que je devienne vétérinaire, c'est-à-dire officiellement autorisé à soigner les animaux.
À soigner les petits poussins. Mais sur un plan plus privé, vous étiez un petit garçon comment ?
J'étais un petit garçon presque normal, et le presque tient au fait que je n'éprouvais pas le besoin de communiquer, de parler avec les humains. C'est-à-dire que j'estimais que se construire son propre monde, un monde riche, un monde varié, me suffisait. J'exprimais dans la construction de mon monde les éléments qui me satisfaisaient. Et je n'avais pas envie, je n'avais pas besoin d'avoir les opinions, d'avoir les paroles des autres. Donc je ne cherchais ni à parler, ni à recevoir les paroles des autres. C'était assez étrange, mais c'était ma façon de vivre.
Et comment ça a changé, ça, alors ?
Ça a changé extrêmement lentement, ça a mis des années et des années à changer. Et ce qui a fait changer les choses, c'est que petit à petit, en fait, au contact des animaux, eh bien, je voyais en fait se développer derrière les animaux des humains. Et ça a changé énormément après que je sois devenu vétérinaire, puisque en fait, jusqu'à ce que je devienne vétérinaire, j'avais le sentiment de communiquer avec tous les animaux que je côtoyais, de près ou de loin, c'est-à-dire même les animaux dans la nature. Quand un petit oiseau chantait sur une branche, eh bien, je me faisais un bonheur de l'imiter en sifflotant comme lui. Et j'avais le bonheur de l'entendre me répondre, comme moi. Et quand je suis devenu vétérinaire, effectivement, les animaux ne venaient pas seuls à la clinique, ils venaient avec leur maître.
Oui, ils arrivent vraiment tout seuls avec leur petit sac, ça c'est sûr.
Oui. Et donc après, petit à petit, je suis rentré en contact avec les maîtres des animaux qu'on me confiait. Et c'est petit à petit comme ça que mon langage s'est dénoué.
Pourquoi est-ce qu'ils sont tellement importants, ces animaux, pour nous? Comment est-ce que vous expliquez ça?
Ben, l'animal, si depuis tout petit, m'a fasciné, c'est sans doute par son silence. C'est-à-dire que nous, surtout, ce n'est pas une émission de radio, je vais le dire, mais pour l'humain, la parole a vraiment un sens immense. C'est-à-dire que la parole est omniprésente pour l'espèce humaine. Or, les animaux, qui sont là depuis bien plus longtemps que nous sur cette planète, n'ont pas besoin de la parole, au sens où nous l'entendons, pour communiquer des émotions, pour communiquer des informations. Donc, si vous voulez, la parole est réellement, réellement une spécificité humaine. Eh bien, pour un enfant qui est très jeune et qui a du mal à rentrer en communication avec les humains, le fait d'avoir affaire à des animaux qui ne parlent pas est un élément essentiel, parce qu'en ne parlant pas, l'animal ne va pas vous juger, ne va pas vous critiquer, il va juste cohabiter avec vous, il va juste transmettre des émotions qu'il aura à côté de vous. Et on peut très bien voir sur un chien qui est à côté de vous, s'il est heureux, s'il est malheureux. Pareil pour un chat, pareil pour un oiseau. Moi, je vis à la maison avec une petite perruche en liberté, qui n'est enfermée dans sa cage que lorsque les chats sont seuls avec elle, pour ne pas prendre trop de risques. Eh bien, cette petite perruche, elle me comprend, je la comprends. Alors évidemment, ce n'est pas des phrases et des discours dithyrambiques, mais néanmoins, on se comprend, on échange des informations, on échange des émotions, et finalement, vivre, c'est échanger, que ce soit sous forme verbale, comme les humains, ou non-verbale, comme les animaux. Mmh. Et bien, pour un enfant qui a des difficultés à parler, et bien, communiquer avec les animaux est une façon de communiquer avec ses semblables, ceux qui ne parlent pas. Alors, je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire, mais pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que la non-capacité de l'animal à parler lui donne un plus sur le relationnel qu'il tisse avec l'humain. Le relationnel est plus profond parce qu'il n'est pas exprimé par des mots.
Ils ne trichent pas, en fait.
Dans leur compréhension, dans leur sens. Alors que sans les mots, eh bien, on voyage plus loin, on voyage plus vite, on voyage plus intensément.
Alors, les animaux sont extrêmement importants dans notre quotidien et de plus en plus aussi en thérapie. On a beaucoup parlé de ce cheval Peyot qui était allé voir les personnes âgées dans un EHPAD. Maintenant, j'ai entendu dire qu'à l'hôpital Cochin à Paris, les chiens sont autorisés en service de réanimation.
Oui, parce que quelque part, avoir un animal, c'est permettre à un esprit de voyager, mais de façon complètement non formelle. Et cette non-formalité, puisqu'il n'y a pas le langage, et le langage est vraiment très formel, cette non-verbalité est une façon différente de s'accrocher au langage. Je connaissais une psychanalyste qui s'appelait Madame Maudit Piot. Eh bien, cette dame avait un chien guide d'aveugle, et ce chien guide d'aveugle était évidemment avec elle pendant ses consultations. Mmh. Et elle avait des petits-enfants autistes, donc des enfants qui ne communiquaient pas. Eh bien, un de ses patients, m'a-t-elle raconté, un de ses patients a, au fil des séances, communiqué en touchant son chien guide, et le premier mot qui est sorti de la bouche de cet enfant, eh bien, c'était le nom de son chien. Et finalement, le nom de son chien a été le point de départ, comme le catalyseur de l'évolution de cet enfant vers la parole. Et à l'issue de plusieurs années, eh bien, l'enfant a pu être scolarisé, l'enfant a pu travailler. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que, quelque part, l'animal a permis de tisser un lien que les humains, naturellement, avec leurs paroles, avec leur comportement, n'avaient pas réussi.
Ouais. On dit aussi que les chats sont extrêmement apaisants et que ça joue même sur la tension.
Oui, effectivement, lorsque vous caressez en fait un animal de compagnie, le simple fait de le caresser, de passer votre main sur son pelage, eh bien, va faire baisser votre tension artérielle. Donc, c'est réellement un phénomène apaisant. Et vous savez, je crois que les ondes électromagnétiques que les animaux émettent et que nous recevons et aussi que nous émettons sont un formidable moyen de langage qui est complètement indécodé pour les humains, mais je suis sûr qu'un jour on le décodera. Et ce qui fait qu'on parle parfois d'atomes crochus entre personnes ou bien entre personnes et animaux, c'est que justement ces ondes électromagnétiques qui parcourent notre cerveau, qui parcourent notre corps, qui sont émises à l'extérieur de notre corps, eh bien elles rentrent parfois en harmonie avec les ondes électromagnétiques des êtres vivants qui nous entourent,
qui croisent notre chemin. Ouais. Ouais.
Et cet aspect, je dirais, ondulatoire, cet aspect énergétique, c'est un aspect que les humains ont beaucoup de mal à appréhender parce que dans leur esprit cartésien, ils ne laissent pas assez vagabonder leur esprit et ça, c'est personnellement, je le trouve un peu dommage.
Dites-moi Yves, puisque je vous ai sous la main, si je peux me permettre, on a deux questions auxquelles vous répondrez bien mieux que moi. Il y a un monsieur qui s'appelle Yves aussi, et qui est non-voyant, et qui nous dit qu'il a un chien guide aveugle, vous en parliez à l'instant, mais ce chien est âgé, va partir en retraite. On veut lui enlever pour le remplacer par un plus jeune, mais lui, il a un appartement qui est trop petit, et il ne veut absolument pas se séparer de son premier chien. C'est vrai que qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça?
Alors, la séparation avec un chien guide d'aveugle, c'est quelque chose de compliqué et figurez-vous que je connais bien la situation car depuis près de 30 ans, je m'occupe des chiens guides de Paris. Mmh. Et la situation est vraiment compliquée parce que lorsqu'on place un chien guide, on a le but de rendre une personne déficiente visuelle beaucoup plus autonome, mais on a aussi le but de rendre un chien heureux dans sa vie. Et effectivement, lorsque vient le moment de la retraite du chien, eh bien, on a un grave souci parce que la personne qui est aveugle ou déficiente visuelle, eh bien, elle a noué de telles relations, de telle intensité avec cet animal que c'est effectivement toujours très difficile de s'en séparer. Alors, après, chaque cas est un cas particulier. C'est pour ça qu'il y a des commissions qui se réunissent et qui étudient la situation. Alors, effectivement, si cette personne aveugle doit partir toute la journée et laisser l'autre chien à la maison, seul, ce n'est pas forcément souhaitable. Si le chien a besoin de soins que l'aveugle ne peut pas lui donner, ce n'est pas forcément souhaitable. Enfin, je ne connais pas cette situation particulière. Mais
ce que vous me dites, c'est que ça se négocie au cas par cas, quoi.
Et voilà, sachez que ce n'est pas une décision qui est prise à la légère, c'est une décision qui est toujours collective et qui est toujours un espèce de compromis entre le
meilleur
bonheur,
pour tous, ouais.
La fin de vie du chien, parce qu'on veut vraiment que ces chiens, une fois mis à la retraite, aient une vie tout à fait honorable, on veut qu'ils soient heureux dans leur fin de vie, en quelque sorte on veut les remercier de ce travail qu'ils ont accompli avec brio la plupart du temps jusqu'à leur mise à la retraite. En aucun cas, on ne voudrait que ces chiens soient malheureux. Et c'est comme ça qu'on a des chiens qui passent parfois une retraite tout à fait paisible dans des familles d'accueil qui les adorent, ils s'en occupent beaucoup. Et pour le chien, finalement, sur son grand âge, être entouré, c'est aussi une façon d'être heureux pour le chien.
Quel est l'âge de la retraite pour un chien guide aveugle?
Alors, on commence à évaluer l'état du chien guide d'aveugle à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 8 ans, on leur fait passer ce qu'on appelle une visite gériatrique. Et lors de cette visite gériatrique, on vérifie qu'ils n'ont pas de problème visuel, pas de problème articulaire, bref, qu'ils sont en bonne santé pour pouvoir ou non continuer à guider. Donc 8 ans pour les chiens type Labrador, Golden Retriever, ce type de chien, c'est effectivement l'âge où on considère qu'ils deviennent seniors. Et comme on respecte les animaux, on respecte les chiens, eh bien on ne veut pas les faire travailler, je dirais, jusqu'au bout. Ils ont le droit, eux aussi, à leur retraite.
D'accord. Et dernière question, Yves, qui revient beaucoup ce soir, notamment Jacqueline, qui dit, voilà, j'aimerais bien prendre un chien, mais je prends de l'âge et j'aurais peur de partir avant lui. J'aimerais savoir s'il y a des associations en cas de décès qui prennent le relais.
Alors, il y a des associations qui peuvent prendre le relais. On a le droit de poser sur son testament qu'une somme définie à l'avance sera allouée aux soins du chien qui peut être placé dans un refuge. Il y a des refuges qui sont dédiés aux vieux animaux. Il y a des personnes qui peuvent accueillir les chiens lorsqu'ils sont âgés. Et d'ailleurs, là, à l'instant, on parlait des chiens guides. Eh bien, il y a des familles d'accueil pour chiens retraités. eh bien, on peut très bien trouver des familles d'accueil. Quand nous partons, eh bien, notre chien peut trouver le bonheur dans une autre famille. Et moi, j'aimerais bien qu'au sein même des familles, on ait déjà le moyen de résoudre cette situation.
Oui,
parce qu'en fait, il serait souhaitable que ce chien qui connaît déjà peut-être les enfants de la personne qui disparaît, ou bien les cousins, les neveux, les tantes, la famille, eh bien, il serait souhaitable que ce chien qui connaît déjà des personnes au sein de cette famille puisse y trouver du réconfort après le décès de son maître. Et ça, je trouve que c'est une situation qui est trop triste. Et c'est malheureux, mais bien souvent, effectivement, les personnes avec leur chien se posent la question de l'après, alors que j'estime que familialement, ça devrait vraiment être une question résolue et plutôt facilement.
Et moi, je me pose une petite question. Quid des maisons de retraite ? J'ai entendu dire que de plus en plus, on peut maintenant amener son animal de compagnie parce que ça a été un tel déchirement pour les personnes âgées placées. Est-ce que ça a évolué, ça aussi ?
Alors oui, maintenant, il y a des maisons de retraite qui acceptent les personnes âgées accompagnées de leurs chiens. Alors, c'est extrêmement bien. Tout à l'heure, on parlait de payot, on parle des animaux qui accompagnent les personnes âgées. Parce que figurez-vous qu'une personne âgée, une personne âgée qui, par exemple, a de l'arthrose au niveau des mains, vous savez que c'est très dur de faire bouger ses doigts lorsqu'on est âgé, parfois, et qu'on est bourré d'arthrose. Eh bien, le simple fait de caresser un animal nous fait travailler nos petites articulations au niveau des phalanges. Et ce travail de câlin que nous effectuons sur nos animaux, eh bien, c'est un travail qui contribue au maintien de la bonne santé des personnes âgées. En plus, ces animaux, eh bien, on les sort, on les fait bouger. Et vous savez, même en ville, en dehors de ces maisons de retraite, lorsqu'une personne est très âgée et qu'elle a un chien, je vous garantis qu'elle sort beaucoup plus que la même personne âgée si elle n'avait pas de chien. Parce que le fait d'avoir un chien vous oblige, vous contraint à sortir. Et en même temps, vous apporte le bonheur de croiser d'autres personnes avec lesquelles vous allez pouvoir échanger quelques mots.
Bien sûr, oui.
Et ces échanges sont bénéfiques à la santé mentale de la personne âgée, sont bénéfiques à sa santé physique, parce qu'en marchant, on va faire travailler notre cœur, on va faire travailler nos muscles. Donc finalement, avoir un animal de compagnie, c'est s'apporter de la bonne santé au quotidien, et quel que soit notre âge.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yves, de votre intervention.
De rien, Sabine. Bonne soirée.
Merci, au revoir. Et c'est Georgia que j'accueille maintenant. Bonsoir, Georgia.
Bonsoir.
Vous avez une histoire particulière avec un chien, vous ?
Ah oui, tout à fait.
Alors, racontez-moi.
J'avais un restaurant dans le 15e. Moi, j'habite dans le 16e. Nous avons vendu notre restaurant et nous avons acheté un restaurant dans le 4e arrondissement de Paris. Et puis, bon, nos chiens sont venus avec nous pendant qu'on a fait les travaux et tout ça, mais bon, ils venaient en voiture, en camionnette. Et puis, bon, les travaux étant finis, on a ouvert le restaurant. Nos chiens étaient là. J'avais un husky, hein, donc un chien de traîneau qui s'appelait Prince. Et l'autre, c'était un petit caniche qui s'appelait Castel, parce que j'avais acheté à Castelnaudary et je pense que je devais manquer de... l'idée, mais bon, je l'ai appelé Castel.
Mmh.
Et ce petit chien bougeait pas mal, il était super parce qu'on avait l'impression qu'il souriait. Même les gens me disaient, mais c'est un chien de cirque ou quoi ? Et je disais, non, c'est pas du tout un chien de cirque, mais bon, il est super. Et ce chien s'est sauvé pendant notre premier service dans ce restaurant du 4e. Qui est donné sur les quais de l'hôtel de ville. Pour vous situer un petit peu, j'avais 2 étoiles au guide Michelin au niveau de la restauration. Et j'ai un commis qui vient et qui me dit « Madame, le chien vient de se sauver ». Et bon, moi, j'abandonne tout, hein, j'abandonne les clients, j'abandonne tout. J'essaie de trouver mon chien, rien du tout. Je téléphone à la voirie parce que je me dis « Bon, peut-être qu'il a été tué par une voiture et tout ça, rien du tout ». Et on cherche le chien pendant 2 jours avec mon mari, comme des fous, et on trouve rien. Et un soir, en rentrant, mon mari est rentré en premier puisque lui était chef de cuisine et moi j'étais en salle. Et il arrive avec sa camionnette, là où on habite, à côté du Parc des Princes. Et puis, moi, je le suis dans ma voiture derrière. Et subitement, qui on voit monter dans la camionnette comme un fou? Notre petit caniche.
Mais c'est pourtant à l'autre bout de Paris?
À l'autre bout de Paris. Mon restaurant était au 72, qui est de l'Hôtel de Ville. Et moi, j'habite 39 avenue du Général Sarail, dans le 16e.
Et vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il aurait été volé ou est-ce qu'il aurait fait ce chemin à pattes?
Non, il aurait fait ce chemin à pattes parce que, bon, bien sûr, on avait très bon contact avec notre veto. Et quand on a été voir le veto le lendemain, bon, déjà, le pauvre chou, il avait tous ses coussinets qui étaient tout allumés.
Ah oui, donc il avait beaucoup marché, alors.
Ah oui, bah, il avait traversé tout Paris, hein.
Alors, c'est étonnant parce qu'on entend ces histoires-là d'habitude avec des chats qui traversent la France.
Exactement.
Mais avec des chiens, c'est quand même beaucoup plus rare.
Voilà. Et quand j'ai vu mon vétérinaire qui s'appelle Bédossa, que vous devez certainement connaître, parce qu'il fait un petit peu de télévision et des choses comme ça maintenant, il m'avait dit, mais Georgia, tu sais, ça, c'est plutôt les chats.
Ouais.
Et ben, c'est arrivé à notre petite chienne.
Il y a dû y avoir quelques larmes de bonheur quand vous l'avez récupéré. C'est une belle
histoire. Ah là là, c'était de la folie. Moi, je suis très champagne. On a ouvert le champagne. On a injecté le chien de champagne. Enfin, bon,
voilà une histoire qui se termine bien, Georgia. Merci de votre témoignage.
Ah ouais. C'est super. Et j'écoute beaucoup votre émission et je vous adore, chère madame.
C'est très gentil. Bonne soirée à vous.
Voilà, je vous adore.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à vous, Cathy.
Oui, bonsoir, Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne consacrée à nos quatre pattes.
Oui, et merci de me prendre à l'antenne. Et alors, vous l'avez intitulé, donc, témoignage exceptionnel avec des animaux.
Mmh.
Eh bien, moi, j'ai une histoire exceptionnelle avec trois de mes Yorkshire à une époque de ma vie.
Oui.
Voilà. Et évidemment, j'ai une de mes petites Yorkshire qui est décédée. Je m'y attendais pas. Et j'ai eu un immense chagrin, mais je l'adorais.
Mm-hmm.
C'était, voilà. Et à partir de là, j'ai beaucoup prié. Je m'étais dit, voilà, un jour, j'irai à Lourdes avec mes deux autres chiens. Et bon, ben, le temps a passé. Je suis partie en voyage. Et au cours de ce voyage, au retour, je revenais de la Côte d'Azur. Au retour, je me suis dit, tiens, ça y est, je vais faire le détour, je vais à Lourdes. J'avais mes deux chiens avec moi, forcément. Et j'ai voulu tenter le coup. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, voilà. Parce que j'avais une intime conviction en moi. Donc,
On peut savoir laquelle?
Je pense que les animaux ont une âme.
Ah oui, bien sûr. Ça, j'en suis persuadée aussi. Et je pense que tous les gens qui les aiment le ressentent quand ils s'en vont.
Voilà.
Cette présence qui est toujours là.
Exactement. Mm. Oui. Donc, arrivé à l'entrée la première entrée, disons, il y a un gardien.
Mais j'allais vous dire, on a le droit de venir avec un animal?
Eh bien non, justement.
Eh oui.
Vous avez voulu skier?
Non mais dites donc.
Voilà, c'est là le truc. C'est là le truc. Alors,
sans me moquer, un Yorkshire ou deux, ça se cache facilement. Hein.
Oui, voilà, des petits Yorkshire. Mais je ne les ai pas cachés. J'en avais un dans chaque bras. Comme ça, voilà. Alors, le gardien me dit, mais vous n'avez pas le droit de rentrer avec des animaux. J'ai dit, mais voilà, je les garde dans les bras, qu'est-ce que ça peut faire, quoi. Et j'ai vu qu'il ne voulait pas. Donc, il y a des touristes allemands qui sont arrivés, qui l'ont accaparé. Et moi, hop, vite fait, j'ai filé. Et je suis rentrée, donc je suis allée vite fait vers la grotte. Et puis, arrivé au pont, vous savez, il y a un pont avec trois arches, là, qui est attenant à la basilique. Jusque-là, je me disais, mais bon, je venais d'une région où il faisait très chaud, puis là, il faisait frais, il commençait à brûler, j'étais en t-shirt, j'avais presque froid, quand je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais non, je suis là, je vais jusqu'au bout, j'ai mes petits chiens, là, je tiens bon. Et arrivé donc près de ce pont aux Trois Arches, d'un coup, j'entends comme un bruit sec et quelque chose qui me tirait le cœur, mais ça m'agrippait, c'était terrible. Et devant moi, j'ai une apparition. Oui. Alors j'avais donc cette silhouette féminine drapée de blanc. Je voyais pas le visage, rien. Et elle avait mon chien dans les bras, dans le pli de voilà, dans le pli du bras, quoi.
Est-ce que c'était une vision apaisante pour vous?
Ah oui, non, mais j'étais là. Si je m'attendais à voir ça, jamais de la vie. Enfin, sur le coup, je n'ai pas pu réfléchir, ni penser, ni quoi que ce soit. J'étais pris par ce truc. Voilà. Et donc, je dirai après, oui. Et donc, j'ai vu donc cette apparition. Et il n'y avait plus rien d'autre qui existait, quoi. Voilà, c'était là. Il y avait mon chien qui était là, qui regardait ailleurs. Et d'un coup, elle a tourné sa tête vers moi et elle me dit « Enfin, te voilà ». Comme j'avais toujours promis que j'irais, voilà, elle me fait « Enfin, te voilà ». Et sur ces entrefaites, cette vision a été coupée, si vous voulez, parce qu'il y a une guérite en dessous du pont, là. De là, il est sorti une dizaine de personnes qui sont accourues vers moi. Et en criant et tout, oui, vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas avec vos chiens, etc. Mais ça m'a fait un autre choc, évidemment, parce que je ressortais j'avais encore le cœur. Voilà, ça m'a fait un autre choc. Et alors, je les ai regardés avec une colère. Et forcément, j'ai pas pu rester. Je suis partie et je savais très bien que c'était fini, quoi. Je me suis même pas retournée, quoi. Mais je leur en ai voulu. Et alors après, donc, je suis repartie. Voilà, quoi. Mais
Cathy, je pense que de ce moment, il faut pas garder la colère. Il faut garder la chance que vous avez eue de vivre un moment,
oui,
de grâce comme ça.
Oui, oui.
C'est ça le plus important.
Voilà, ça, c'était sur le moment, hein. Mmh. Et après, forcément, quand je me suis un petit peu libérée de ça, que j'ai pu à nouveau souffler, voilà, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Je suis allée là, mais jamais je n'aurais cru vivre un truc pareil, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis allée là parce que je m'étais fait ce challenge, c'est tout. Mais alors, c'est au-delà de tout, quoi. Et en fait, j'ai eu ma réponse. C'est vrai que, voilà, il y a quelque chose. Et les animaux, ils participent aussi, ils y ont droit. Voilà.
Merci Cathy pour ce beau témoignage.
Et alors, ce que je voulais dire après, c'est que quand je suis rentrée, parce que je n'avais pas fini mon voyage, quand je suis rentrée, peu après la sortie donc de Lourdes, un très très gros, comment ça s'appelle, un très très gros orage. Et alors, je sais pas comment je suis rentrée chez moi, mais je me suis même pas aperçue des kilomètres, rien. J'étais encore sur le truc.
En état second. Oui.
Oui. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que j'avais mes deux chiens dans les bras. Ils ont pas bougé, rien du tout. Ça me faisait même pas un poids, rien. C'était extraordinaire, quoi. Ils ont même pas cherché à descendre ou ci ou ça. Ils ont pas bougé d'un poil, quoi. C'était quelque chose entre nous. Je me demande si eux, ils ont pas
ressenti ça, oui.
Ouais. Donc voilà, c'est un message de toute beauté que je veux faire participer à tout le monde. Ça fait déjà plusieurs années. Et jusque-là, je n'osais pas, je n'étais pas prête. Voilà. Mais ce qui m'a appelé, c'est quand vous avez dit, voilà, vous pouvez faire un témoignage exceptionnel. Et il est exceptionnel.
Merci Cathy. J'aimerais en profiter pour envoyer une douce pensée d'amour à tous les animaux qui nous ont quittés. Et j'en ai quelques-uns à mon actif.
Ah, d'accord.
On pense très fort à eux. Et moi, je sais aussi qu'ils sont quelque part.
D'accord. J'espère que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà.
Merci beaucoup Cathy pour votre témoignage. Je vous embrasse.
Oui, merci. Moi aussi. Au revoir.
on va faire maintenant la connaissance de Margot. Bonsoir Margot.
Bonjour Sabine.
Alors vous avez une histoire...
C'est une émission... Pardon ?
Oui, je vous écoute.
C'est une émission pour les quatre pattes, mais moi je vous raconte une histoire de deux pattes.
C'est ça, vous avez une histoire un peu curieuse avec un perroquet, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Je l'ai eu pendant plus de 40 ans, 45 ans à peu près.
45 ans, ça peut vivre un perroquet ?
Ben, c'est-à-dire, c'est un petit gris du Gabon, ça vit environ 50 ans, mais il y a les aras, les grands perroquets verts, c'est 100 ans. Hein.
Ah, je ne savais pas. D'accord.
Ah si, ça vit très bien un perroquet. Oui, très vieux. Et celui-là, il était très familier, et attachant au possible, et puis surtout démonstratif. Et il était extrêmement distant avec mon mari. Moi, il l'aimait d'une façon exclusive, il n'aimait que moi. Et j'avais un mari qui était de bonne composition parce qu'il ne supportait pas qu'il m'approche, par exemple. Et il valait mieux qu'il reste un petit peu à distance.
Ah oui, quand même, c'était un perroquet de garde.
Oui, c'est ça. Il était exclusif, quoi, surtout vis-à-vis de moi.
Alors, j'y connais rien d'oiseau. Est-ce que ça parle, un perroquet du Gabon ?
Bien sûr que ça parle. Mais le mien faisait surtout beaucoup de bruit, énormément de bruit. Et par exemple, il imitait très bien l'eau qui coule. Alors moi, je revenais, je disais, mon Dieu, tiens, j'ai pas fermé le robinet, c'est pas vrai. La porte qui grince, alors je disais à mon mari, tiens, quand, je savais pas que tu étais dans le cellier, je t'aurais donné ça à porter. Mais je suis pas allée au cellier, qui me disait, mais si, j'ai entendu, c'était lui qui faisait la porte qui grinçait. C'est des choses comme ça. Et il imitait beaucoup il retenait beaucoup le visage des gens. Et il faisait toujours des réflexions après, qui étaient toujours pertinentes d'ailleurs. Parce que...
Attends, je vous perds un peu, Margot, là.
Ah bon ? Il faisait toujours des réflexions pertinentes quand il avait quelque chose à dire. C'était jamais n'importe quoi. Un jour, notamment, j'ai une amie qui vient. Elle avait rompu avec son amie. Elle était désespérée. Elle était en face de moi sur un canapé, moi sur l'autre. Et bon, je l'écoutais parler, je la voyais pleurer, j'essayais de la consoler du mieux que je pouvais. Et elle est repartie, mais quand elle est revenue, peut-être une dizaine de jours après, l'autre animal était toujours sur mon épaule et s'est mise à sangloter, mais c'était déchirant. Il pleurait mieux qu'elle, vous savez, c'était terrible. Au bout d'un moment, le fou rire m'a pris, et elle aussi, bien sûr. Et comme ça, on s'est calmé de cette façon-là.
Et cet oiseau,
toujours, par exemple.
Oui, dites-moi, cet oiseau, comment il était avec les autres animaux, alors ?
Ah, écoutez, il était indifférent. J'ai eu des chiens, puisque je l'ai eu 45 ans, il a connu tous mes chiens, et ils se sont ignorés. C'était la seule façon, sauf avec une labrador que j'ai eue, avec qui il avait des liens très affectueux, très très affectueux. Il ne se quittait pas, d'ailleurs. Il allait sur son panier quand elle dormait. Quand elle montait l'escalier, ou plutôt lui d'abord montait l'escalier, alors il s'appuyait sur le rond de son bec, vous savez, pour se hisser sur la marche. Il faisait pas ça en voletant, hein. Alors la sienne lui donnait des petits coups de croupion, des petits coups dans le croupion, elle aimait pas ça du tout. Il se retournait, lui disait arrête. Mais il y a aussi, il s'était sauvé un jour, enfin, il a eu peur, il est parti. Et on l'a rattrapé dans des acacias qui étaient sur la place du marché. Et c'est les pompiers qui sont allés le chercher. Moi, j'étais pas prévenue, autrement je serais allée, il serait venu avec moi. Mais quand il a vu les pompiers, il est reparti et on l'a trouvé dans une cour où il y avait des faisans et où je l'ai pris sans problème. Mais quand il est revenu chez moi, il faisait pas un pont partout. La peinture des pompiers.
Comment il s'appelait, ce perroquet ?
Il s'appelait Ubu.
Ubu.
Ubu. Et moi, j'avais appelé le père Ubu, et puis il paraît que c'était une mère Ubu, parce que j'ai vu une vétérinaire à Paris. Enfin, elle n'a jamais pondu, ma mère Ubu, je ne sais pas. Mais voilà, mais sinon, j'avais aussi une autre anecdote.
Est-ce que je peux vous demander, Margot, si c'est possible de parler un petit peu plus loin du combiné, parce qu'on a beaucoup de bruit là quand vous parlez.
Ah, plus loin, comme ça ?
On va essayer, allez-y.
Comme ça, ça va mieux ?
Ouais, on va
c'est
essayer.
Insupportable.
Hein. Oui, c'est pas évident, il y a du souffle, enfin, allez-y, allez-y.
Comme ça, ça va, non ?
C'est un petit peu mieux, j'ai l'impression, oui.
Ah bon, on va essayer comme ça. Donc, j'avais une petite amie qui s'était fiancée à un certain Henri. Et puis, il l'avait vu 2-3 fois, pas plus. Et puis, la relation a cassé. Et quand elle est revenue, elle était avec un Guillaume. Et lui, il les voit arriver tous les deux, il dit « Oh, Henri, chérie, Henri !»
Ah, quelle horreur.
Quelle horreur.
En fait, ça fait tourner bourré,
Henri, alors elle dit que, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, dis chérie. Oh, ah. Il est gentil, ce petit oiseau-là.
Ouais, vous avez été diplomate sur ce coup-là.
Ben, il fallait bien. Mais avec mon mari, il ne le supportait pas plus. Hein. Il le supportait. Il acceptait qu'il n'aimait pas qu'il m'embrasse, par exemple. Alors, pour mon mari, quand je l'avais sur l'épaule, il ne valait mieux pas qu'il s'approche. Sinon, tous les jours, c'est lui qui décidait. Il était en liberté, mon perroquet. Alors, il allait dans sa cage quand il en avait envie. Mais quand il voulait se faire caresser, il montait, il grimpait sur mes genoux, il arrivait dans mon cou, je le tenais dans ma main gauche et puis de la main droite, je le caressais. Alors, quand il en avait assez, il s'en allait, voilà. C'était quand il est mort, ça a été un vrai deuil, vous imaginez.
Oh bah, j'imagine bien, surtout autant d'années. Vous savez quoi, Margot, vous me donnez envie d'avoir un perroquet.
Écoutez, je ne vous le recommande pas, parce que hein, c'est pas leur vie d'être là. Même s'ils sont heureux, c'est quand même pas leur vie. Ils sont mis en liberté dans leur forêt. Mais mon mari était au Gabon, il m'avait rapporté ce perroquet pour me faire plaisir. Et j'en ai pris soin autant que j'ai pu. Je pense qu'il a été heureux. Certainement, il était heureux. Mmh. Mais pas normalement, quoi. Je trouve.
Alors, on va respecter ça. Merci Margot, on va se quitter là parce que le son est vraiment très très mauvais, mais merci pour ce clin d'œil et c'était intéressant de parler un peu d'autre chose aussi que des chiens et des chats.
Non, je vous en prie, merci à vous et félicitations pour votre émission.
Merci, bonne soirée à vous. Et je vais prendre maintenant l'appel de Johan. Johan a fondé l'association Gamelle Pleine qui vient en aide aux sans-abri, aux personnes très isolées ou démunies pour qu'elles puissent continuer à s'occuper leur animal, à garder leur animal parce que c'est quelquefois le seul lien qui leur reste. Bonsoir Johan.
Bonsoir Sabine.
Je suis très heureuse de vous accueillir sur Europe 1 ce soir. Comment est-ce que vous êtes arrivée à créer cette fondation? Quel est votre parcours à vous?
Alors en fait, le constat était très simple. Hein. Il y a 10 ans... On m'a demandé de prêter main forte sur des maraudes alimentaires pour des personnes sans abri. Et très vite, moi-même ayant un animal avec lequel j'étais très proche, très fusionnel, très vite j'ai été frappé de voir que ces personnes auxquelles on venait apporter assistance avaient aussi des compagnons et que ces compagnons étaient tout pour eux. Au point où le seul repas qu'on leur apportait de la journée, ils commençaient par le diviser en deux. Certains nourrissaient le chien et attendaient avant de manger leur part au cas où le chien en réclamait encore. Et je m'étais dit, c'est quand même affligeant de ne pas penser que l'animal est avec eux et tous les bienfaits que ça leur apporte. Donc je suis allé voir le responsable de cette maraude en lui proposant d'apporter une gamelle de croquettes pour nourrir les animaux en même temps que les maîtres et de pouvoir apporter un peu plus de réconfort à ces maîtres en errance. Et il m'a dit, tant que ça ne me coûte rien, allez-y. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'opération Gamelle Pleine, qui consistait au départ de remplir des gamelles pour permettre aux gens de manger pleinement leur propre sandwich.
Mais pardonnez-moi d'être terre à terre, mais qui est-ce qui payait ces croquettes?
Alors, à cette époque-là, j'avais ma chienne Rosalie qui avait un blog, et donc on a utilisé ce blog pour faire une collecte de croquettes, et c'était tous les particuliers, notre entourage, famille, des amis, voilà, tout le monde qui nous ont offert des croquettes. Et Rosalie, avec son petit blog, avait collecté 1,5 tonne de croquettes sur cet hiver-là, qu'on a redistribué pendant 180 nuits d'hiver à tous les gens de la rue. Voilà. Et très vite, on s'est rendu compte que cette gamelle, en fait, c'était une boîte de Pandore. Certes, ils ont besoin de nourrir leurs animaux parce que les chiens ont faim comme eux, mais ils ont besoin de bien plus. Ils avaient besoin de pouvoir leur acheter des fois un collier, une laisse. Ils avaient des bouts de fil de fer en guise de laisse. Mais parce que non pas qu'ils ne voulaient pas leur donner une laisse, c'est qu'ils n'avaient pas mieux. Ils avaient besoin de soins vétérinaires. Et là, on s'est rendu compte que il y avait énormément à faire, ne serait-ce que des soins de base, des identifications, des puces, des vaccins, et très vite aussi des stérilisations, des soins d'urgence. Il n'y a rien de pire que son chien qui est malade, savoir qu'il existe des soins, des gens capables de les soigner, mais de se dire « j'ai pas les moyens de lui offrir ça ».
Oui, c'est terrible.
Voilà, et donc ils regardaient leur chien souffrir, ils souffraient presque plus que leur pauvre bête, et ils étaient en pleurs en se disant « mais on pourrait la sauver ma bête, mais j'ai pas les moyens, et à cause de moi, elle souffre, alors que c'est pas nécessaire ». Donc c'est vrai que quand on est arrivé à leur écoute, on a créé un lien de confiance très fort avec tous ces gens-là et qui permet justement que quand l'animal est blessé aujourd'hui, de se dire on peut la soigner et la partie financière, on voit ça dans un deuxième temps.
Oui, mais comment vous faites?
Alors, comment on fait? En réalité, Gamelle Pleine, c'est une association, enfin c'est un ensemble d'associations. On est présent dans 8 villes de France aujourd'hui, dont Paris, Lyon, Strasbourg, Rennes, Caen, enfin, les plus grandes villes de France. Ces associations sont fondées qu'avec des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs compétences et fonctionnent qu'avec des dons privés. les particuliers qui nous font des dons qu'on peut défiscaliser. On a aussi des entreprises qui nous soutiennent, hein, notamment, je ne sais pas si on a le droit de citer des marques d'ailleurs. Mais...
Là, pour une opération comme ça, si, quand même, c'est quand même quelque chose de...
On peut, alors par exemple, voilà, on a Royal Canin, on a qui aussi Équilibre et Instinct, hein, pour en citer plusieurs, qui nous soutiennent et qui nous livrent maintenant des palettes entières de croquettes pour nous permettre de continuer cette mission primordiale de la nutrition et d'améliorer la qualité des croquettes qu'on leur propose.
Mais on a aussi... Pardon, mais oui. Concrètement, pour les soins... Vous ne donnez pas d'argent, par exemple, au SDF, vous payez les vétérinaires ?
Alors, oui, c'est ça. Non, c'est nous qui payons les vétérinaires pour deux raisons. La première, c'est que déjà, nous, on obtient de la part des vétérinaires souvent un geste, une participation. Ils nous réduisent la facture, ils nous facturent que des actes nécessaires. Ils vont peut-être pas toujours aller, si on peut éviter de faire l'échographie sur certains cas, parce qu'on sait faire le diagnostic sans, on va s'en passer pour optimiser au maximum le coût. Et par contre, on demande toujours aux maîtres de participer, tout simplement parce que c'est une question de dignité pour eux, c'est leur chien. Nous, on s'occupe, on n'est pas une fondation d'aide aux animaux en soi, on est plutôt une aide aux personnes, aux êtres humains, et donc il est important que tout ce qu'on leur propose soit dans leur respect de leur dignité, et en même temps dans une certaine philosophie de progrès. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider, pas pour les assister.
Pas pour les assister.
Si on payait tout...
Bien sûr. Johan, pardonnez-moi, on va devoir faire une toute petite coupure le temps des infos. Ne quittez pas, s'il vous plaît, je vous récupère dans un tout petit instant.
Avec plaisir.
Et on poursuit cette conversation. Merci à vous.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Passer ensemble sur cette libre antenne consacrée ce soir à nos animaux de compagnie. Appelez-nous au 3921 si vous souhaitez prendre la parole et venir nous raconter votre histoire avec un animal. 3921 donc pour participer par téléphone. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer à réagir par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. 73921 pour commenter tout ce qu'il dit. Et puis envoyez-moi les prénoms de vos animaux, les prénoms les plus sympas. Je me ferai un plaisir de les donner à l'antenne.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et je reprends cette conversation avec vous, Johan. Vous êtes là ?
Oui, tout à fait.
Mais vous me disiez juste avant la coupure que votre but était d'aider, mais surtout de responsabiliser les personnes démunies.
Oui, tout à fait. Le but, c'est de pouvoir être là quand des gens ont besoin, mais de ne pas les conforter dans une situation inconfortable. Donc effectivement, quand on va au vétérinaire, ils participent. Certains même se vexeraient si on leur demandait pas de participer. Alors la participation est parfois très symbolique, c'est de l'ordre de 10 euros, 15 euros, mais c'est très très important. Pouvoir leur permettre d'être présent pour leurs animaux et de rendre à l'animal tout ce que l'animal leur donne au quotidien. Mmh. Parce que ce sont des personnes qui sont brisées par la vie et que l'animal vient souvent chez eux combler beaucoup beaucoup de manquements, de lacunes. Pour certains ça va être la solitude hein, qui va être brisée. Pour d'autres, ce sera, ils vont retrouver un lien familial qu'ils ont perdu ou qu'ils ne s'autorisent pas à avoir. Donc souvent, ils entendent parler de leurs animaux comme leurs enfants ou comme leurs bébés. C'est une forme d'anthropomorphisme, certes, mais c'est salvateur pour eux puisqu'ils ont besoin aussi de se sentir membre d'un groupe, d'une famille et d'autant plus d'une où ils sont les leaders, le chef de meute. Ouais.
Est-ce que quelquefois aussi l'animal permet un contact plus facile avec les gens dans la rue ?
Ah oui, le chien est un facteur social très important. On le voit nous-mêmes quand on sort nos propres animaux dans le parc. Les gens qui ont des animaux parlent beaucoup plus entre eux puisque les chiens vont naturellement l'un vers l'autre. Et donc les maîtres forcent le bonjour et prennent le temps d'échanger des anecdotes. C'est pareil pour les gens qui font qui sont à la rue, qui se font la manche. Alors certains vont dire, on entend des fois dire, oui, ils prennent des animaux pour faire la manche, ce qui est une aberration en soi, puisque l'animal leur coûte tellement cher à entretenir, parce qu'un animal, il faut le soigner, il faut le nourrir, qu'en réalité, la plus-value que ça pourrait apporter dans une manche est bien inférieur au coût que l'animal peut représenter pour le maître. Donc en réalité, l'animal est plus là pour faire du lien social que de l'argent, parce que quand ils font la manche, bah, quand il y a un chien, les gens les voient un peu plus, vont s'arrêter, les enfants vont venir caresser le chien, et du coup vont avoir envie de parler un peu plus et de connaître l'histoire de cette personne qui est là à la sortie du magasin. Voilà. C'est un vrai facteur social, le chien.
Oui, c'est important de le souligner. Est-ce que vous avez en mémoire une intervention ou quelqu'un qui vous a vraiment marqué là dans toutes ces maraudes ?
Oui, effectivement. Alors, des anecdotes, on en a plein, puisqu'on vit, c'est une aventure très humaine que l'on vit grâce aux animaux. Une qui m'a marqué particulièrement, c'était un monsieur qui avait été hébergé donc grâce au 115 dans un hébergement d'urgence et qui malheureusement avait pris feu et l'animal est resté bloqué 2 heures dans l'incendie. Fort heureusement, les pompiers ont pu extraire l'animal après 2 heures, mais l'animal était vraiment très mal au point. Et quand on nous a appelé pour aider ce monsieur-là, le chien qui avait quand même 15 ans était vraiment très très mal au point. Au moment où nous on s'était dit, bah il faut peut-être préparer le monsieur à l'acceptation du fait que son compagnon allait partir. Mmh. Et après l'hésitation, on a quand même décidé d'engager tous les frais possibles pour sauver cet animal. Et on a dépensé presque 2000 euros pour sauver cet animal, et en se disant peut-être qu'on n'est pas forcément on doit gérer l'argent quand on est dans la situation. Donc on s'est posé la question si c'était judicieux. Et en réalité, bah, on a offert 9 mois de vie à cet animal en plus. Mais on a surtout offert à ce monsieur le temps nécessaire de faire son deuil. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'au moment où on est intervenu, donc le monsieur nous était très reconnaissant, on avait l'impression qu'on avait sauvé sa vie. Et le fait est qu'il avait déjà préparé son départ à lui-même, il avait préparé son suicide ce jour-là. Et il avait envoyé des courriers à tous les travailleurs sociaux qui l'avaient aidé tout au long de son existence. Sauf que bah, quand nous on est intervenu, les courriers étaient déjà mis dans la boîte aux lettres. Donc on a su quelques jours plus tard ce qu'il avait prévu de faire. Et notre intervention est arrivée pile au moment où il allait faire des bêtises et on lui a sauvé la vie. Et en réalité, en sauvant son chien, c'est surtout lui qu'on a sauvé. On lui a redonné confiance en la vie, on lui a redonné confiance en la valeur humaine. Il s'est dit finalement, on ne me tourne pas le dos, on ne m'abandonne pas avec mon animal et j'ai peut-être une chance de repartir. Et aujourd'hui, ce monsieur, je le croise encore dans les rues de Caen, et il se porte très bien et on sait pas d'où il vient quand on le voit aujourd'hui. Mais moi, je le sais d'où il vient et je me dis, waouh, sans le vouloir, par son chien, on lui a sauvé la vie.
C'est une magnifique histoire, ça, Yvonne. Mmh. Alors, vous intervenez auprès des sans domicile fixe, mais qui d'autre ?
Alors, nous, on aide en fait toutes les personnes en situation de précarité. On a 2 critères essentiels pour prendre en charge une personne ou quelqu'un. C'est d'abord la précarité. La précarité, elle a plein de visages, mais en gros, quelqu'un qui vit avec un simple RSA, on se doute bien que les fins de mois sont très compliquées. Et le deuxième critère, c'est l'amour de son animal. Voilà. C'est très facile à voir, hein, quand la personne nous appelle en panique parce que le chien est blessé, c'est parce qu'il aime son animal et qu'il veut pas le voir souffrir. Et très vite, la précarité, elle est malheureusement très facile à voir aussi. Donc dès lors que ces 2 critères sont réunis, Gamelle Pleine peut intervenir, alors toujours dans la limite de ses fonds disponibles. Comme toute association, on est dépendant aussi des trésoreries dont on dispose. Mmh. Mais on trouve toujours des solutions, on fait des appels dons spécifiques quand on n'a pas assez de fonds pour essayer justement de sauver un animal et sauver souvent le maître qui est avec l'animal.
Mmh. Alors on a Lucie qui nous demande par SMS, formidable cette association, est-ce qu'on peut donner en ligne ? Et j'allais vous poser la question, donnez-nous toutes les informations pratiques si on veut vous aider. Mail, téléphone, oui. Site, enfin voilà, dites-nous tout qu'on puisse et que les auditeurs qui souhaitent vous aider puissent vous contacter.
Tout à fait. Alors de manière hyper pratique, le site gamellepleine.fr, donc gamellepleine au pluriel hein, puisqu'il y a plusieurs gamelles. Mmh. Donc sur gamellepleine.fr, déjà vous retrouverez en détail tout ce que l'on fait et vous aurez la possibilité de faire un don en ligne et vous recevrez aussitôt sur votre email un reçu fiscal pour faire valoir auprès des services de l'État. Vous pouvez aussi suivre les associations proches de chez vous par le biais de Facebook. Donc on a Gamelle Pleine France sur Facebook qui recense un petit peu toute l'activité et toutes les nouveautés de Gamelle Pleine. Mais vous aurez aussi une page pour chacune de vos villes. Donc si vous habitez à Montpellier, bah, vous allez sur la page de Gamelle Pleine Montpellier. Pareil pour Lyon, Strasbourg, etc. Notamment en ce moment, vous avez vu, il fait très chaud, c'est caniculaire. Notre rôle n'est pas là que quand il fait froid, mais quand il fait très chaud également. Nos équipes maraudent pour apporter de l'eau, apporter des sandwichs également, parce que c'est important dans cette période de pouvoir s'abriter. Et malheureusement, il n'y a pas que par moins 10 qu'on est en danger, par plus 40, on l'est également.
Tout à fait. Alors je pense aussi à nos auditeurs qui sont un peu plus âgés, qui ne fonctionnent pas forcément via Internet. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre ?
Alors, il n'y a pas de numéro de téléphone direct où on pourra nous joindre. puisqu'il s'agit des numéros privés des bénévoles, donc on ne peut pas les diffuser en antenne. Par contre, vous pouvez nous écrire à notre adresse qui est Gamelle Plaine, 8 rue Germaine Tillion, 14 000 Caen. Donc c'est le siège national, mais effectivement, après, on redispatche auprès des différentes associations en France au gré de leurs projets, de leurs besoins et des différentes actions qu'elles mènent.
Alors, redonnez l'adresse lentement encore une fois, s'il vous plaît.
Alors, Gamelle Plaine, 8 rue Germaine Tillion, 14 000 Caen.
D'accord. Merci beaucoup Yann, merci pour tout ce que vous faites pour les autres et merci d'être intervenu ce soir. J'espère que cet éclairage va apporter plein d'appels et plein d'aide à votre association Gamelle Plaine.
Ben, merci pour tous, la solidarité c'est une grande chaîne et on n'est qu'un seul maillon et vous êtes le deuxième.
Merci à vous Yann, bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Envoyez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 en tapant nuit au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Alors avant d'accueillir Frédéric, je vous avais promis de vous transmettre des prénoms originaux ou sympathiques qui sont arrivés par SMS. Alors on a Hooper, on a Papouchka, Fuchsia, à l'instant on a Kalim, Casper et Billy. Voilà, continuez de nous envoyer ces prénoms, c'est toujours un petit clin d'œil sympa. Il y a Pollux aussi qui vient de passer par là. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne spéciale animaux.
Oui, merci à vous de faire des antennes spéciales animaux, c'est très très bien.
Quelle est votre histoire à vous, alors?
Alors, moi, je voulais vous parler de Léo. Alors, Léo, c'est un chat. Et par là, je vais vous parler également de Pierre. Pierre qui est mon fils. Donc, Léo, je l'ai récupéré à la SPA en 2007. Et très vite, c'est lié à un grand sentiment fort entre mon fils, Pierre, et Léo.
Votre fils, il avait quel âge à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, mon fils, il avait une trentaine d'années. Ah oui, enfin, il était grand.
Ah oui, c'était pas un enfant, c'était un grand, d'accord.
Non, non, mais c'est un grand enfant. Bon, ce Léo était très très mignon, très gentil, adorable, un chat quoi, adorable, voilà, un animal super. Et mon fils s'est mis à partir à l'étranger, et là il était triste, non pas que je vivais pas avec mon fils, mais mon fils passait souvent à la maison, donc jouait avec ce Léo. Et quand il est parti à l'étranger, heureusement, par internet, il y avait Skype par lequel on communiquait, eh bien, à chaque fois que mon fils m'appelait, donc Skype sonnait via l'ordinateur, et tout de suite, Léo allait s'installer sur la chaise, toucher sa patte comme pour répondre, pour appuyer sur la touche. Non, mais c'est vraiment fou. Et donc, mon fils apparaissait, et là, c'était formidable. Bon, voilà, il communiquait comme ça. Et donc, cette sonnerie Skype, presque avant même qu'elle sonne, qu'elle retentisse dans la maison, le Léo, il était déjà près de l'ordinateur. Et puis, malheureusement, la vie a ses aléas. Et mon fils est tombé malade, très malade. Il a, vous connaissez bien, il a fait une dépression mélancolique sévère. Mmh. À cette époque, il était au Canada, à Montréal. Et c'était en août 2017. Et en août 2015, pardon. Et bon, il s'est fait soigner là-bas. Et puis, il appelait. C'était évidemment très difficile, très, très triste, très dur. Et le chat écoutait, Léo écoutait. Et puis, mon fils a décidé de rentrer en janvier 2017 en France parce qu'il n'arrivait pas à se sortir de cette maladie. Et il préférait être auprès des siens. Et il est rentré. Tout de suite, il est venu s'installer à la maison. Et puis, il s'est couché. Il a dormi. Et le chat dormait avec lui, était tout le temps avec lui sur le lit et tout ça. Et mon fils caressait ce chat. Enfin bon, il y avait vraiment toujours ce lien en particulier.
Ouais.
Ce fit, vraiment, c'était incroyable. Et puis, un jour, je pars justement, je m'absente 2 heures de la maison pour faire les vaccins du chat chez le vétérinaire. Bon, tout allait bien et tout ça. Je rentre et là, mon fils, étant resté seul, a fait une tentative de suicide très grave et avait avalé beaucoup de médicaments avec de l'alcool et tout ça. Bon, j'appelle les secours, tout ça, qui arrivent, les pompiers, le SAMU. Mon fils n'était pas transportable, etc. Bon, enfin bref, en fin de journée, ils l'ont transporté, ils l'ont emmené par hélicoptère dans une grande ville, dans un grand hôpital. Et en fait, je me suis rendu compte que le chat était resté tout le temps sous le lit, hébété, pas un miaulement, rien, et complètement recroquevillé.
En état de choc un peu.
En état de choc. Mmh. Bon, alors, Léo, allez, viens Léo, viens avec moi et tout ça. Eh bien, ce chat, il s'est mis absolument à ne plus bouger, à ne plus manger, à ne plus s'alimenter, à ne plus boire, plus rien du tout. Bon, alors, évidemment, Sabine, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'allais à l'hôpital tous les jours, mon fils était dans le coma. Il a fait 3 semaines de coma. C'est vrai que, bon, je me rendais compte le soir quand je rentrais que la gamelle n'avait pas bougé, le chat encore moins, et que rien ne s'était passé. Et au final, 7 jours plus tard, jour pour jour, 7 jours plus tard, le chat, un matin, j'étais dans la salle de bain, il est venu derrière la porte, il a enfin bougé, parce qu'il n'avait donc pas bougé depuis 7 jours, et donc là, il a poussé un miaulement, mais épouvantable. Donc, je sors de la salle de bain. Léo, qu'est-ce qui se passe? Je le prends sur mes genoux. Et là, il est mort.
Mais il avait quel âge?
10 ans.
Oui, donc, c'est a priori, ce n'est pas une mort de vieillesse. C'est vraiment une mort de chagrin ou de choc.
Alors, le lendemain, je suis allée voir le vétérinaire avec le chat, bien entendu. Mmh. Et en lui disant, écoutez, voilà ce qui est arrivé. Et le vétérinaire m'a dit, un chat, c'est une éponge. Mmh. Un animal, c'est une éponge. Mais il m'a dit particulièrement un chat. Votre chat a tout vécu, finalement. Il a vécu tout, même quand votre fils était au Canada, qu'il vous parlait, tout, le retour, etc. Tout ça, il a tout pris sur lui. Et voilà, il s'est... Non, il n'avait pas de virus, il était en très bonne santé. En plus, une semaine avant, il l'avait vu. Enfin, je veux dire, tout allait bien. Quoi,
il a absorbé le mal-être et le stress de votre fils.
Oui. Pff, incroyable. C'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup marquée parce que... Alors, parallèlement, j'avais un chien. Enfin, j'ai un chien aussi, une chienne. Alors, évidemment, j'ai redoublé d'attention après par rapport à cette chienne parce que je me suis dit, oh là là, bon, dans la série des grands malheurs, je ne voulais pas en plus que la chienne, il lui arrive quelque chose. Mais c'est vrai que j'étais très attentive et je remarquais que ma chienne, ne voyant plus mon fils, hein, ayant assisté à la mort de ce Léo et tout ça, auquel la chienne était très attachée aussi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les animaux avaient beaucoup besoin d'attention. Alors, vraiment, bon, alors, d'une part, je pense qu'ils sont effectivement des éponges. Et quand on dit que ce sont des animaux tellement proches de l'homme, ça, c'est sûr et certain. Et c'est vrai qu'ils ont besoin d'attention. Enfin, vraiment,
bien sûr.
Quand Yves parlait de ce dialogue qu'il y avait entre une personne malvoyante et son chien, mais c'est vrai, ce sont des dialogues, en fait, avec les animaux. Et c'est vrai que c'est très touchant. Et il faut faire très attention à ces animaux, quoi, vraiment. Et puis, bon, mais...
Et votre fils, quand même, dites-nous comment ça s'est passé après.
Ah, mon fils, il a fait 3 semaines de coma. Et puis ensuite, il est sorti. Et puis après, l'horreur. Il est hospitalisé près d'un an après dans un grand hôpital parisien. Mmh. Et maintenant, il va, quoi. Il va. C'est difficile. Ça va faire 5 ans, là, au mois d'août.
Il a conscience que ce chat a été très présent pour lui ?
Oui. Alors, évidemment, quand il s'est réveillé de son coma, mais pratiquement, la première chose qu'il me demande tout de suite, c'est comment va le chat. Bon, je lui dis, mais écoute, ce chat va très bien, Léo, tout va bien, tout ça. Bon, comme il est sorti de l'hôpital que 3 mois plus tard, et puis là, après, je lui ai dit qu'il avait eu un virus foudroyant. Voilà,
oui,
puis,
vous l'avez préservé un petit peu.
Bah oui, je peux oser lui dire exactement ce qui s'était passé. Quoi. Oui. J'ai pas été très courageuse.
Bah non, c'était pour le protéger aussi. Mais en tout cas, Merci pour ce beau témoignage, Frédéric, et merci d'avoir souligné aussi à quel point, oui, nos animaux ont besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est pas juste une présence. Ils ont besoin
ils ressentent tout. Il faut vraiment être très attentif à eux quand on les aime, vraiment, vraiment.
Merci Frédéric.
Ben merci. Merci Sabine. Merci à vous. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir. Et avant de prendre l'appel de Jean-Pierre, j'aimerais vous conseiller quelques livres, si vous le permettez. Il y a d'abord Un lion nommé Christian. L'histoire merveilleuse de deux Américains qui ont adopté un petit lion dans les années 70 et qui ont choisi de le rendre à la nature. Un lion nommé Christian, c'est un livre fabuleux. Il y a Marley et moi, mon histoire d'amour avec le pire chien du monde. Ils en ont fait un film et sincèrement, je trouve le livre beaucoup mieux. Marley et moi. Et puis Les chats de hasard, le merveilleux récit d'Annie Dupéret. Les chats de hasard. Bonsoir à vous Jean-Pierre.
Bonsoir.
Alors, Pierre-Jean, pardon, excusez-moi, oui, en plus je l'ai souligné, c'est moi qui ai fourché, pardon.
Il n'y a pas de mal.
Pierre-Jean, bonsoir.
J'ai l'habitude.
Oui, j'imagine, malheureusement. Alors, racontez-moi votre histoire.
Alors voilà, ma femme s'est offert, Solange s'est offert une petite chienne Yorkshire Toy en 2013. Oui. Elle va donc avoir 6 ans le 7 juillet. Et en 2014, elle nous a... vous savez, nous avons une table roulante qui sert pour l'apéritif, où on peut poser des carafes et autres. Mmh. Et nous avions 7 dessous de verre en bois, carré, à bord arrondi. Et puis, elle avait 1 an, elle s'est dirigée vers ces dessous de verre. Et visiblement, elle voulait absolument qu'on lui en donne un. Alors, elle le prend entre les dents. Elle va sur le tapis de la salle à manger, elle le dépose au sol. Alors, pour bien comprendre ce que je vais dire, attention, je tiens à préciser, nous n'avons aucune maladie mentale.
Vous ne prenez pas de substance illicite non plus.
Hein, je vous dis ça tout de suite, parce que là, ce que vous allez entendre, c'est totalement incroyable. Ouais. Alors voilà, alors on va appeler ce premier dessous de verre, on va l'appeler numéro 1. Numéro 1, elle nous en demande un deuxième. Elle le met exactement à 50 cm du premier, le numéro 2. Elle nous en demande un troisième, qu'elle met en arc de cercle, ça faisait un arc de cercle parfait, à 50 cm du deuxième. Le quatrième, elle le pose sur le premier en quinconce, c'est-à-dire avec un petit décalage de 20 degrés par rapport au premier.
Oui.
Elle pose le cinquième sur le deuxième avec le même décalage, le sixième sur le troisième avec le même décalage, ça faisait un arc de cercle absolument parfait. Et nous n'avons que 7 dessous de verre en bois comme ceci. Elle nous demande le septième. Et à 50 cm du dernier tas, elle a fait quelque chose avec ses dents que nous, à la main, on n'arrive pas à le faire. Ce sont des dessous de verre qui font 4 mm d'épaisseur, hein, pas plus. Hein, vous voyez. Donc, et en poursuivant un arc de cercle absolument parfait, elle le met sur la tronche, debout.
C'est très
simple. Même à la main, on n'y arrive pas.
Et une fois qu'elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle attendait les félicitations, elle est venue nous voir, puis elle était contente d'elle. Et puis, on était à table, donc elle est venue manger avec nous. Elle avait fait sa réalisation. Et on n'a jamais su, n'étant pas éthologue, on n'a jamais compris qu'est-ce qui lui était passé par la tête pour inventer. Et on ne l'a pas dressé à ça du tout, hein. C'était... ce serait complètement idiot, sinon je ne le raconterais pas à la radio.
Oui, puis je vois pas l'intérêt de dresser un chien à faire ça en plus.
Oui, alors que oui, là,
c'est
franchement...
Curieux, ça. Et alors, elle vous en a fait d'autres depuis ?
Alors, c'est amusant parce qu'il y a 15 jours, elle a une salmanie, elle choisit dans sa gamelle les croquettes qui ne lui plaisent pas, elle les envoie sur le tapis, alors là, on le sait, une fois qu'on a écrasé la croquette sur le tapis, vous voyez, bon... Et il y a une quinzaine de jours, ma femme a regardé, elle me dit, regarde, elle a fait exactement un losange avec un diamètre long, le long diamètre d'une trentaine de centimètres, et puis le petit diamètre de la moitié, 15 centimètres. Un losange absolument parfait. Alors c'est peut-être losange, l'anagramme du prénom de ma femme Solange, ça j'en sais rien. Et 3 jours après, elle nous a aligné parfaitement tous les 10 centimètres 5 croquettes dont elle ne voulait pas. Et au lieu de les jeter sur le tapis, elle les a disposées en ligne parfaite de 10 centimètres, espacées chacun de 10 centimètres.
Comment elle s'appelle cette petite chienne ?
Alors, Clochette.
Alors, Clochette.
Elle était tellement, oui, tellement vive que quand ma femme se l'est offerte, elle voyait qu'elle mettait la pâtée à ses frères, donc elle pensait que c'était un garçon, elle voulait l'appeler Peter comme Peter Pan. Et quand on a vu que c'était une chienne, ben on n'a plus d'autre solution que l'appeler Clochette comme la fée. Voilà.
Il faut l'inscrire à la France un incroyable talent, cette Clochette.
Ah oui, c'est incroyable. On a conservé des photos, mais on a essayé de lui faire refaire l'expérience. Elle a voulu le faire. Et là où nous étions, il y avait du parquet. Et un des dessous de verre est tombé sur le parquet. Et elle a repéré que c'était celui-ci. Elle n'en voulait plus. C'était fini. Elle n'a plus touché ce dessous de verre-là. Et elle a commencé à esquisser la même chose qu'elle avait faite juste avant. Et puis après, c'était fini. Elle ne nous a jamais plus refait ça.
Bon, bah, y a le mystère Clochette. Merci, merci de ce petit clin d'œil.
Voilà.
Merci bien. Pierre-Jean.
Bon, bonne soirée à vous.
Bonne soirée, au revoir.
Merci. Au revoir.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1.
Bonsoir Virginie.
Bonsoir Céline.
Bienvenue.
Merci, je suis ravie de vous entendre. On s'était parlé il y a quelques temps.
Il y a beaucoup de bruit là derrière vous.
Oui, ça aboie.
Ah. Bon, alors on ne peut rien dire ce soir, là c'est sûr.
Ouais, non, mais là on n'a pas le dessus.
On s'était parlé pourquoi alors
On s'était parlé en fait parce que j'étais intervenue pour une dame qui avait la maladie de Parkinson et qui avait un chien. Et moi, je n'avais pas percuté. En fait, moi, je fais partie de deux associations qui s'appellent une Tekel SDF et l'autre le Relais des VIP. Et c'est des Tekel et des Galgos qui viennent d'Espagne.
Oui, c'est vrai, je me souviens de l'histoire des Tekel, ça me revient maintenant.
Voilà. Et en fait, moi, j'avais proposé à cette dame, parce que moi, j'avais récupéré un chien d'une dame qui avait la maladie de Parkinson à l'époque. Enfin, voilà. Et j'avais proposé, puisqu'elle se sentait seule, de dialoguer avec moi. Et en fait, vous m'aviez tendu la main. C'est-à-dire que j'avais parlé avec cette dame qui était en Alsace et vous m'aviez gardé sur l'antenne en fait ensuite, alors que ce n'était pas prévu, pour que je puisse parler des associations en fait dont je faisais partie. Et j'avais trouvé ça génial et je ne vous remercierai jamais assez parce que ce n'était pas prévu du tout. Moi j'étais un petit peu, ce n'était pas prévu, je n'étais pas là pour parler de ça, mais voilà. Et alors, concernant la clochette précédente, je pense que c'est des grossesses nerveuses. Hein. Mais
intéressant.
Bah, oui. En général, oui, parce que moi, j'ai une de mes chiennes que j'ai adoptée, qui a été reproductrice d'élevage et qui fait des blocages sur les sacs et qui a mis des croquettes pendant très longtemps à côté des sacs pour nourrir ses petits au moment des chaleurs, en fait. Bien qu'elle soit stérilisée.
Ah bon, merci, c'est un éclairage, effectivement, qu'on n'avait pas.
Ouais, c'est très possible. Et donc, en fait, je tenais à vous remercier parce qu'en fait, déjà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour parler de ces deux associations qui sont Tekel SDF et le Relais des VIP. Et c'était pour vous donner des nouvelles parce que, en fait, à l'époque, quand je vous ai eu au téléphone, moi, je devais adopter un autre galgo. Donc, ces chiens venus d'Espagne qui sont torturés, en fait, qui font la chasse aux lièvres et qui sont torturés. Et le grand Atlas est arrivé. Voilà. Donc, il est arrivé en France le 9 mars.
Atlas.
Et il est arrivé. Atlas. Bah, il s'appelait comme ça. Ouais, ils l'ont appelé comme ça. Donc, Atlas. Donc, 2 ans, 27 kilos. 2 mois dans sa tronche. C'est un gros bébé. C'est le chéri à sa maman. C'est une merveille absolue. Donc, il est chez moi depuis le 13 avril. Et puis, c'était aussi pour vous dire que suite, en fait, à mon intervention sur votre antenne, Alors c'est très marrant parce qu'en allant sur le forum de TKLSDF, il y a une des adhérentes en fait qui m'avait envoyé un MP en me disant mais je t'ai entendu, t'as très bien parlé de la sauce et tout. Moi je disais attends, c'est cool, tant mieux. Et il y a un chien qui a été adopté.
Ah oh, formidable.
De quelqu'un qui avait entendu l'émission en fait. Et donc c'est un petit TKL à poil long et qui a été adopté par quelqu'un qui écoutait l'émission et donc qui a pris contact avec l'association et qui donc a adopté un petit chien qui a 9 ans, voilà. Et au-delà de ça, il y a aussi des colis qui sont arrivés à l'association, sans nom, on ne sait pas d'où ça vient, mais alors je peux pas vous assurer que ce sont des gens qui ont entendu l'émission, mais en tout cas,
ça pourrait être peut-être, le cas, hein, ouais.
Ça pourrait être le cas, et si c'est le cas, et en tout cas, parce qu'il y a des colis, mais il y a aussi des dons. Et en tout cas, merci à tous. Et merci à vous, surtout. Mais merci à tous. Parce que sans... Et tout à l'heure, j'ai entendu, c'était Johan, c'est ça qui...
Oui, l'association Gamelle Pleine, oui.
Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que sans bénévoles dans les associations, on peut rien faire. Et sans donateurs, on peut rien faire non plus. Et donc... voilà, là, il y a un chien qui a été adopté. C'est génial. Et j'allais dire, ça nous en fait un de moins. Enfin, ça peut paraître un peu péjoratif, mais bon.
Non, mais c'est toujours là. C'est une pierre à l'édifice, quoi. C'est toujours pareil. Hein.
Ouais.
Chaque petit geste, chaque adoption est importante, bien sûr.
C'est exactement ça. Et pour les Galgos, moi, j'en ai parlé à Nathalie, qui est la présidente de l'association des VIP of course, du relais des VIP, et j'en ai parlé et elle m'a dit, elle était super ravie quoi, que on est, parce que elle, pour le coup là c'est vraiment une toute petite assoc, et elle m'a dit c'est génial si on peut, c'est même pas forcément que des chiens soient adoptés parce que les lévriers c'est des grands chiens, enfin les galgos c'est des grands chiens, mais en tout cas que les gens aient conscience de ce qui se passe quoi, que les galgos en Espagne sont torturés et que voilà, on fait ce qu'on peut. Et elle était super contente. Donc voilà, je me dis. Et quand j'ai entendu que l'émission de ce soir c'était sur les animaux, je me suis dit ouais, quand même. Merci infiniment, quoi.
Merci à vous. C'est gentil, Virginie, en tout cas, d'avoir appelé pour donner de ses nouvelles. Et je suis ravie d'avoir participé et que la Libre Antenne ait pu participer à sa manière à vous aider et à aider ces chiens qui ont bien besoin.
C'est chouette. Et alors juste un dernier truc, en fait, alors. Éclairez-moi, mais il y a une thérapie, c'est la NDA, c'est ça ? Vous savez, le fait de bouger un doigt devant les yeux.
Ça, c'est le EMDR.
EMDR, voilà.
Thérapie par mouvement oculaire.
Voilà, parce qu'en fait, je veux juste faire une parenthèse, il y a peut-être 6 ou 7 ans de ça, j'ai rencontré complètement par hasard une dame qui était d'origine allemande, qui était éducatrice canine, qui était en France, et on parlait des chiens qui étaient difficiles. Et elle me disait, en fait, elle m'a parlé de ça. Et donc
la pratique de l'EMDR sur les animaux.
Ouais, sur les chiens.
Ah, alors ça, je vous avoue que je n'en ai jamais entendu parler.
Ouais, et elle me parlait de ça, donc c'est une femme qui est allemande, donc qui vit en France depuis plusieurs années, et donc, parce que moi, j'ai que de la récup hein, au niveau des chiens, donc, et elle me disait, mais sur des chiens difficiles, il y a ce truc. Ah, et oui. Bon, moi, au début, je vous avouerai, j'étais là, oui, peut-être, enfin, je voyais pas vraiment de quoi elle parlait. Et puis, c'est en fait, en écoutant votre émission, que vous en avez parlé plusieurs fois, je crois, et... c'est là où, en fait, vous voyez, 7 ans après, je suis pas très rapide, hein, quand même, mais où j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, mais c'est ce dont elle me parlait, en fait. Et en fait, il y a des comportementalistes et des éducateurs, et y compris en France, qui font ce genre de thérapie sur les chiens.
D'accord, merci pour l'info, je vous avoue que je savais pas. Et je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, et visiblement, sur des chiens qui peuvent être
qui ont vécu un traumatisme. Si un chien est difficile, c'est qu'il y a eu un problème en amont, donc forcément, c'est intéressant
de travailler. Et c'est des chiens qui, a priori, on pourrait dire, ils n'ont pas d'avenir, quoi. Et en fait, visiblement, avec ce genre de thérapie, ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Donc, je pense que c'est aussi un moyen, sur des chiens qui ont eu des passés difficiles, d'arriver à les remettre un peu d'aplomb et à leur trouver une famille et leur permettre d'avoir une nouvelle vie, quoi, en fait.
Et alors, je vais en profiter pour rebondir pour tous ceux qui sont intéressés par la communication animale. Ça permet aussi de comprendre ce qui a pu arriver à un cheval. Vous avez entendu parler de ça, un cheval, un chien, un chat. Je vous recommande d'aller découvrir deux sites. Il y a le site de Shaina Lebeau, L-E-B-E-A-U, qui donne des conférences un peu partout en France, Shaina Lebeau. Et il y a le site de Charlotte Letien, L-E-T-I-E-N-T, qui donne aussi des apprentissages très intéressants. Shaina Lebeau et Charlotte Letien, pour tous ceux qui sont intéressés par la communication animale, allez vous renseigner sur ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant.
Parce que moi, j'ai fait de la communication animale sur, avec Laila Del Monte.
Oui.
Qui est... Alors, moi, j'ai une histoire qui est très très longue avec les animaux et ma première, et je dirais ma plus grosse histoire d'amour est avec un cheval.
Oui.
Qui m'a sauvé la vie, hein, véritablement. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Je pense que si je n'avais pas eu ma jument à ce moment-là, je ne pourrais pas vous parler, je serais morte depuis bien longtemps. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Et ensuite, elle est décédée. Moi, elle est décédée, j'avais 20 ans, j'en ai 45. Et j'en ai fait mon deuil il n'y a pas très longtemps, en fait. Mmh. Et parce que, voilà, ça a été vraiment... elle m'a sauvée à tous les points de vue. Et j'ai rencontré via une copine qui est journaliste et qui faisait tout un tas de reportages sur les animaux, etc. Et j'ai rencontré Laila Del Monte. Et à l'époque, je n'avais que Sparrow, mon petit équel, que j'avais adopté, qui avait 8 mois, qui avait été battu dans un élevage. Et j'ai adopté, il avait 8 mois et demi. Et c'était un chat qui n'aboyait pas. Pour un teckel, le truc incroyable. Oui. Et elle me dit, écoute, si tu veux, on fait un truc avec Laila Del Monte, etc. Donc, on fait le truc avec des chevaux chez quelqu'un d'autre et avec Sparrow. Et chose incroyable, Sparrow, qui n'allait jamais vers qui que ce soit, il a vu Laila Del Monte, il est allé vers elle direct. Et en fait, on a passé la journée ensemble et peut-être 3-4 jours après, j'ai entendu la voix de Sparrow.
Oui, il se passe beaucoup de choses pendant ces stages de communication animale. Moi, j'entends beaucoup de témoignages qui sont très, très surprenants. Mmh, oui, tout à fait. Merci
beaucoup. Et c'est comme si elle lui avait dit qu'il pouvait s'exprimer, en fait, que s'il s'exprimait, elle allait pas se prendre un coup, en fait. C'était ça qui était fou, quoi.
C'est toujours étonnant, ça.
Ouais. Et je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux et de les regarder vivre. Et comme le disait le vétérinaire qui est intervenu en première partie, il n'avait de connexion qu'avec les animaux, ce que moi j'ai eu aussi. Et puis ensuite, via les animaux, on a ensuite des connexions avec les gens. Et on a des vraies connexions qui sont fortes et intenses et qui sont vraiment pures et véridiques, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui... les animaux ne sont pas que des animaux. Et pour finir, il y a juste, je trouve, une chose qui est terrible. Et après, j'arrête parce que je sais qu'il y a du monde derrière. Je trouve que la chose la plus injuste qui soit, c'est que quand on perd un animal, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement on est mort de chagrin, mais en plus, on peut en parler à personne. Ou à très peu de gens.
Aussi à ceux qui savent.
Voilà, mais sinon, quand on vous croise dans la rue avec les yeux comme des soucoupes parce que vous avez, ça fait 4 jours que vous pleurez, que vous n'en pouvez plus, et qu'on vous demande ce qui vous arrive et que vous dites « j'ai perdu mon chien, ou mon chat, ou mon cheval, ou mon poisson rouge », les gens vous regardent genre « bah ouais, et alors ?» Et c'est dégueulasse. Enfin, donc du coup, on dit rien. Et c'est vraiment la double peine, quoi.
C'est pour ça qu'il faut choisir les gens dont on s'entoure.
Oui, non. Et c'est pour ça que le fait, du coup, d'avoir des chiens ou des chats, n'importe, etc., moi, j'ai considérablement réduit mon répertoire. Et je n'ai que des gens qui ont des chiens ou pas, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, qui ont la même sensibilité que moi.
Qui sont sur la même longueur d'onde. Merci, Virginie, de cet appel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sabine. Et merci à vous infiniment pour ne serait-ce que ce petit qui a été adopté. Et visiblement, il est très heureux avec sa maman. Et c'est chouette, quoi.
Ah, j'en suis ravie.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, Virginie.
Moi aussi, je vous embrasse. Merci beaucoup, Sabine.
Au revoir. Et j'accueille maintenant Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Allô ?
Oui, allô ?
Vous m'entendez, Frédéric ?
Oui, très bien, oui.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Alors, je vais essayer d'être un petit peu rapide, parce que du coup, je vois que l'heure a tourné. En fait, fait, comme je le disais à votre standard, j'ai un message à faire passer. Et puis du coup, je me suis dit, bon, comme je suis propriétaire de chien depuis très longtemps, s'il veut une anecdote ou deux en même temps, ben, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Je suis tout nouvellement, enfin depuis 3 mois là, j'ai eu des chiens toute ma vie, des chiens personnels. Et depuis 3 mois, je suis famille d'accueil pour les chiens guides en formation.
C'est-à-dire alors que vous accueillez un chiot chez vous le temps qu'il apprenne à grandir et à être formé
À se socialiser, et puis je l'emmène dans son école, dans son centre de formation toutes les semaines. Là, elle vient d'y passer une semaine. Enfin bref, le but, c'est de l'emmener absolument partout. C'est un boulot très prenant, mais drôlement intéressant. Mmh. L'anecdote que je voulais vous soumettre, c'était que ma dernière chienne, c'était une montagne des Pyrénées qui passait pas inaperçue, donc vu sa taille.
Évidemment.
Et en plus, bon, c'était une belle chienne, quoi. Et puis, elle avait été 2 ans à l'éducation canine tous les samedis. Bon, c'était un long travail. Du coup, elle avait un très bon comportement. Et le beau-frère de ma fille, qui à l'époque était un jeune homme, quoi, avait pris l'habitude à Bruxelles, parce qu'ils habitent là-bas, quand j'étais là-bas, d'emmener ma chienne se promener. Alors au bout d'un moment, je lui ai demandé, moi comme il avait la tête sur les épaules, bon, je savais qu'il n'y avait pas de problème, je laissais partir avec la chienne. Et en fait, il m'a expliqué un jour qu'il l'emmenait, parce que quand il partait avec ma chienne, vous savez, les chiens, ça crée vraiment du lien social.
C'est un piège à fille, c'est ça le truc.
Et voilà, c'est qu'effectivement, il me dit, mais quand je suis...
Ah, allô ? Frédéric ? Ah, Frédéric ? Ah, on a un petit problème technique, ça a coupé avec Frédéric. Qu'est-ce qu'on fait, Fabrice ? On fait une toute petite pause ? Ouais, petite pause musicale, on rappelle Frédéric tout de suite, j'aimerais bien voir la fin de l'histoire. Vous êtes là, Frédéric ?
Je suis resté tellement d'attente au téléphone que mon combiné s'était déchargé, donc j'ai été vite en prendre un autre dans une autre pièce.
Alors vous me disiez donc que ce magnifique toutou est devenu un piège à filles.
Ah bah oui. Non mais effectivement, il l'avait remarqué tout de suite. Que c'est vrai qu'on remarque que surtout les jeunes filles sont très attirées par les chiens, comme les enfants. Et puis la deuxième anecdote que je voulais vous soumettre, c'est... ça n'est pas du tout arrivé à moi, mais elle est extrêmement révélatrice et c'est une très belle anecdote. Ça s'est passé au Japon. C'est un monsieur qui... Excusez-moi, je suis essoufflé, j'ai monté les escaliers tout à l'heure. C'est un monsieur qui, tous les matins, allait prendre le train pour aller à son travail et revenait en fin d'après-midi. Et son chien, qui avait très bien repéré les horaires... partait l'accompagner, revenait chez lui, et le soir, il avait très bien repéré à quelle heure le train arrivait, il allait le chercher à la gare, et il revenait chez lui, avec son maître. Et ce monsieur est décédé, et son chien lui a survécu. Donc j'imagine que l'entourage de ce chien s'est occupé de lui, et le chien, toute sa vie jusqu'à sa mort, a continué aux mêmes horaires à aller à la gare, revenir, repartir le soir et revenir.
Oui, j'avais entendu cette histoire.
Elle est belle, je trouve, et à tel point que quand ce chien est mort, la population s'est cotisée et ils ont fait une statue qui est en face de la gare en question.
Ouais.
Une statue du chien.
Ouais, c'est une belle histoire. Dites-moi Frédéric, en dehors des anecdotes, je crois que vous appeliez aussi pour transmettre un message important concernant l'éducation et je trouve que vous faites très bien d'en parler parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire encore ce soir.
Ah oui, excusez-moi, en plus, il fait chaud, je suis en Dordogne.
Posez-vous, prenez le temps de respirer, posez-vous. Effectivement, je voulais souligner qu'un chien, ça n'est pas un jouet. Quelle que soit la taille, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, comme je dis souvent, c'est extrêmement important de l'éduquer. Donc parlez-nous de ça un petit peu.
Alors... Attendez, parce que je fais plein de choses à la fois. Excusez-moi. Voilà, sinon j'aurais pas pu parler, j'ai pris un peu d'eau.
Vous avez raison.
Oui, je vais vous dire ce qu'il en est. Je fais partie des gens qui ont emmené leur chien à l'éducation canine. Parce qu'un chien, ça s'éduque pas avec Internet ou avec des livres. Un chien, ça s'éduque dans des centres d'éducation. Alors, c'est pas une histoire de coût, parce qu'il y a des trucs associatifs qui coûtent pas si cher que ça. Il faut que le chien soit socialisé au contact de ses congénères, au contact d'autres gens, pour en faire un bon chien de compagnie qu'on puisse emmener absolument partout. Mmh. Et ben, je peux vous dire qu'on n'en est pas tous là. On n'en est vraiment pas tous là, et nos chiens non plus. Et c'est grave parce que les gens font l'amalgame. Nous qui faisons éduquer nos chiens, on est confrontés sans arrêt à des problèmes de comportement d'autres chiens qui sont soit agressifs, soit extrêmement turbulents. Les gens font n'importe quoi avec leurs chiens. Moi, je compare toujours ça avec un enfant. C'est exactement comme si on a un enfant, qu'on en est très heureux, qu'on l'aime beaucoup et qu'on ne lui donne pas d'éducation. C'est exactement la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on en fait, à tous les coups, quelqu'un qui est complètement désaxé.
Et je suis persuadée, en plus de ça, que ça éviterait beaucoup d'abandon.
Ah,
parce que
mais
certaines
oui,
personnes
que...
sont désespérées parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur chien,
oui,
et n'ont pas
oui.
d'autres. Enfin, non, pas si, elles en ont d'autres, mais enfin, elles choisissent cette solution-là. Et je pense que si le chien était éduqué, il y aurait moins de soucis aussi, ça provoquerait moins d'abandon.
Ah oui. Il faut vraiment faire passer le message. Moi, j'arrête. Je suis pas le seul à le faire, mais nous n'arrêtons pas de le dire, de dire aux gens, mais allez faire éduquer vos chiens, vous serez plus heureux. Le chien, lui, sera beaucoup plus heureux et vous pourrez l'emmener partout. Moi, ma chienne, ma montagne des Pyrénées, elle a même mangé une fois dans un restaurant étoilé à la demande du propriétaire. C'est pour dire qu'un chien qui est éduqué, il peut manger dans un restaurant où les nappes avec chandeliers sur les tables et où les nappes traînent
oui,
par terre.
Et alors concrètement, comment est-ce qu'on peut trouver ces endroits où on éduque les chiens?
Il y en a à peu près partout. Alors il faut, alors évidemment, il y a des éducateurs privés, j'imagine, mais le système associatif fonctionne bien à ce niveau-là. Et puis, ben voilà, moi j'estime que quand on a pris la responsabilité d'un animal, qu'on l'ait payé ou non, on peut quand même lui accorder ça, c'est-à-dire du temps. Ça dure effectivement des mois. Il ne faut pas croire qu'on y va deux, trois fois puis c'est réglé. Mais il va apprendre à bien se comporter, à être agréable en société. Il va bien se comporter avec les autres chiens. Il suffit d'aller voir sur Internet où est-ce qu'il y a des centres d'éducation. Ah oui, alors du coup, il y a toujours ce mot dressage et éducation. Beaucoup de gens préfèrent de loin le terme d'éducation. Moi, je le préfère.
On parle comme pour les enfants d'éducation positive, d'ailleurs d'arrêter le... la punition, les colliers étrangleurs et autres bêtises dans ce genre.
Je vois la petite chienne que j'ai là depuis 3 mois, elle est éduquée par des gens, c'est un peu l'excellence, quoi, parce que les éducateurs pour les chiens guides d'aveugles, il faut voir ce qu'ils demandent aux chiens et ce qu'ils leur apprennent, surtout nous, effectivement, on a le travail toute la semaine de les avoir avec nous, et puis de leur faire répéter ce qu'ils apprennent là-bas, bien évidemment, hein, voyez-vous.
Ah oui.
Mais c'est vrai que la partie technique du travail est assurée par des spécialistes et de très très bon niveau, je peux vous dire. Mais pour le propriétaire de chien lambda, il peut s'adresser à un centre d'éducation et faire éduquer son chien. Et puis alors évidemment, vous me voyez venir avec ma deuxième... Si vous saviez le nombre de fois où j'ai interpellé des gens dans ma vie qui osent laisser... Alors je sais que ça plombe un peu l'ambiance de votre émission, mais c'est un message qui doit passer aussi.
Non, mais il faut en parler aussi, bien sûr.
Qui osent laisser les déjections canines sur les trottoirs, mais c'est un comportement qui est asocial, ça ne se fait pas.
Et du coup, de la même manière, les gens qui sont propres se font agresser dès qu'ils ont un chien parce qu'on les soupçonne de ne pas l'être, de ne pas être propre.
Mais exactement, c'est qu'après, d'une manière tout à fait évidente, le public fait l'amalgame.
D'éducation humaine, je pense.
Comment dites-vous ?
C'est une question d'éducation de l'être humain, d'abord.
Ah, mais tout à fait. Et c'est rien du tout de ramasser ça avec un petit sac et d'aller mettre ça dans une poubelle. Des sacs, on en trouve partout.
Mmh.
Et si vous saviez le nombre de fois où, des fois, ça a même assez mal terminé parce que le ton est monté, mais moi, je ne lâche pas là-dessus, parce que je dis aux gens, vous savez, en plus, je ne suis pas que propriétaire de chien, je suis aussi piéton. C'est-à-dire que je suis moi aussi concerné, quand je n'ai pas de chien avec moi, par ce type de problème.
Bien sûr.
Et bien, je peux vous dire que c'est un comportement qui est extrêmement fréquent, et je trouve ça irresponsable de faire ça.
Vous avez bien fait d'en parler aussi. Merci beaucoup Frédéric, allez reprendre votre souffle, allez boire un bon verre d'eau fraîche, vous rafraîchir. Et merci d'avoir abordé tous ces sujets-là qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aborder ce soir, c'était important.
C'est moi qui vous remercie,
passez une bonne soirée.
Alors.
Et oui, notre émission touche déjà à sa fin. Un très grand merci à vous tous qui avez participé en direct ou par SMS. Vous avez été très nombreux à vouloir intervenir ce soir. Et ça a été un vrai bonheur, je l'espère. Demain soir, vous retrouverez Sophie Peters. Je vous souhaite donc une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h30. Notez que dimanche prochain, pour la dernière avant les vacances, je vous proposerai de venir me parler de vos vacances, justement, vacances exceptionnelles, originales, vacances imprévues, vacances catastrophes, pourquoi pas. Venez nous raconter ces moments particuliers qui vous ont marqué. Vous pouvez déjà vous inscrire en appelant le 3921 et en précisant que c'est pour la libre antenne de dimanche prochain ou par mail à l'adresse suivante libreantenne@europain.fr, libreantenne@europain.fr. Mail à l'intention d'Amandine ou de Hassan, la libre antenne spéciale vacances, c'est dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse dans quelques instants en compagnie des programmes de la nuit sur Europe 1. Bonne nuit à vous. Il est 1h du matin sur Europe 1.